Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 31 octobre 2019, le pas d'Halloween annuel. Donc, xième émission de... Ça fait 6 mois qu'on est en onde, les Apatrides Anonymes, en direct les jeudis soirs à 18h30 sur les ondes de choc.ca et en balado, évidemment, en tout temps, autant cette émission-là dans quelques minutes que d'autres émissions précédentes. Je suis Mathieu, en compagnie de Marie-Ève. Bonjour.
Bonjour, Mathieu.
Ça va?
Oui, super bien.
Yeah, Simon est aussi là dans la baraque et on va à tour de rôle s'échanger le micro dans la prochaine heure pour vous parler de plein de sujets. On va vous parler entre autres, il va y avoir un bon coup de la semaine, je vous réserve la surprise tantôt. On va du côté de Jonquière, entre autres. Mais pas la toune de plume, là. Jonquière. L'agenda antiraciste plus tard à l'émission aussi. Les actualités internationales en deux parties. Un topo sur Haïti avec Simon tantôt aussi. On a notre humoriste pour une deuxième fois en bilan post-électoral, Fred Dubé, qui va être là dans quelques minutes.
C'est notre chouchou.
Pour l'instant, hein, Marie-Ève?
Oui.
ça dure pas longtemps, ça. Ça se passe dans d'autres stations de radio, des fois, ça va vite. Et sinon, vous dire aussi qu'on pensait vous faire un reportage sur la manif de dimanche dernier, la quatrième manif contre le racisme, mais finalement, il pleuvait beaucoup, on voulait pas endommager l'équipement de choc, donc on est pas allé.
Non, on a passé l'Halloween à la place.
Oui, c'est ça. Fait qu'on a choqué. Fait que la prochaine manif, on vous fera un beau topo à monter pour une prochaine émission. Donc, je voulais faire aussi une spéciale dédicace à la jeunesse du monde entier,
oui.
Et aux moins jeunes aussi, avec tout ce qui se passe dans le monde. Ça se révolte, ça se soulève au Chili, à Hong Kong, au Liban, en Égypte, en Haïti, on va en parler tantôt, en Irak, en Algérie. Donc vraiment, je pense qu'on peut le souligner parce que ça bouge pas mal, puis les gens se révoltent de façon intense et importante contre les corrompus, les voleurs, les menteurs et...
Et les états militaires.
Voilà. Les dictateurs. Donc voilà. Donc dédicace à tous ces gens-là qui se battent et qui se tiennent debout. Ça va être un peu à travers l'émission, on va en parler aussi. Donc ben voilà, on va commencer avec quelques notes de musique pour introduire dans quelques secondes Marie-Ève et les actualités internationales. Donc, Marie-Ève, je te cède la parole à l'international.
Merci, Mathieu. Oui, effectivement, tu faisais référence à plusieurs pays qui se soulèvent actuellement. De mon côté, aujourd'hui, je vais vous parler d'un pays qui fait rarement les manchettes malgré son poids économique grandissant et sa population frôlant les 1,4 milliards de personnes. Vous devinez?
Je dirais l'Inde.
Oui, bravo, Mathieu. T'as fait génie en herbe, n'est-ce pas?
J'ai vu la feuille de route.
Alors, quelques faits d'abord, hein, parce que comme on en parle peu, l'Inde, l'hindouisme y est évidemment la religion majoritaire avec environ 80% de fidèles, mais plusieurs minorités religieuses s'y côtoient également, dont le christianisme et l'islam. Une diversité qui entraîne encore aujourd'hui des tensions importantes, des violations des droits fondamentaux et des violences meurtrières envers les minorités. Et ce qui vient encore plus aggraver et compliquer la situation, c'est que l'Inde connaît un durcissement du nationalisme indien et hindou. Donc, par exemple, l'État de l'Assam, qui est situé à l'extrémité nord-est du pays, juste à la frontière du Bangladesh et du Bhoutan, et qui compte quand même 33 millions d'habitants, est ainsi devenu un laboratoire du nationalisme hindou. C'est que, en vertu d'une décision de la Cour suprême qui date de 1985, mais qui avait jamais été appliquée avant 2015, seules les personnes dont les parents y résidaient avant le 24 mars 1971 ont droit à la nationalité indienne. Cette date-là correspond en fait à l'indépendance du Bangladesh, qui avait donné lieu à de terribles massacres intercommunautaires. Et donc, beaucoup de Bangladais avaient fui le pays. Et les affrontements sanglants pour se réfugier dans cet état de l'Inde. Donc, les nationalistes indiens, aujourd'hui au pouvoir, soupçonnent les musulmans bangladais de franchir depuis des années illégalement la frontière avec l'Inde, avec l'Assam. Donc, dernièrement, dans le cadre d'un vaste recensement de la population de l'Assam, la Cour suprême a publié à la fin août une nouvelle liste des citoyens. Donc, au total, c'est 1,9 million d'habitants, la plupart musulmans, qui vont être déchus de leur citoyenneté indienne et donc devenir apatrides. Ils figurent pas sur le registre et donc sont désormais considérés comme des étrangers illégaux. C'est pas la première fois qu'on fait cette opération-là. En juillet 2018, il y avait une version provisoire de cette liste-là qui avait exclu 4 millions de citoyens au départ. Ils avaient jusqu'au 31 décembre 2018 pour faire appel et tenter de fournir les pièces supplémentaires là, justificatives attestant de leur nationalité indienne. Donc, c'est environ la moitié de ces 4 millions-là de personnes qui ont pu être réintégrées dans leur citoyenneté. Pour les autres, ben les autorités ont jugé qu'ils n'avaient pas fait la preuve que eux, leur famille, leurs ancêtres s'étaient installés en Assam avant la dite date, soit le 24 mars 1971 à minuit. Donc, évidemment, les autorités promettent que les personnes évincées du registre auront la possibilité de faire appel dans les 120 jours auprès des tribunaux pour étrangers, parce qu'en Inde, il y a des tribunaux pour étrangers, qui disposeront alors d'un délai de 6 mois pour rendre la décision, leur décision, ces tribunaux-là. Mais évidemment, les chances de pouvoir réintégrer le registre sont assez minces, là. Réunir les documents antérieurs à 1971 est souvent impossible, ne serait-ce qu'en raison des moussons. Par exemple, comme cette année, des pluies torrentielles ont emporté des villages et maisons. Puis en plus, cette région de l'Assam est très pauvre. On compte beaucoup de personnes illettrées et les actes de naissance sont très rares, en fait. L'opération de recensement de la population de l'Assam et ce qu'on pourrait nommer les conditions d'acquisition de la nationalité sont pour l'instant uniques en Inde. Okay? Le recensement a débuté il y a 4 ans sous le premier mandat de Narendra Modi, qui a été réélu, qui a été réélu en mai dernier. Si M. Modi n'est pas à l'initiative du recensement, ce sont quand même ses partisans qui ont agi au niveau local pour le mettre en œuvre en nommant les magistrats qui composent les tribunaux pour étrangers. Donc, un exemple, lors de la campagne pour les législatives, donc juste avant les élections en avril, il y a Amit Shah, qui est depuis devenu le ministre de l'Intérieur, avait promis, et je cite, d'éliminer tous les infiltrés du pays, à l'exception des bouddhistes, des hindous et des sikhs, et là même avait qualifié plus tard les immigrés bangladais de termites. Donc évidemment, il y a plusieurs organisations de défense des droits de la personne qui disent que ce qui se passe dans l'Assam est une politique de redéfinition de la citoyenneté indienne qui est basée sur la religion hindoue et qui exclut les musulmans et d'autres minorités. Ils affirment aussi que l'Inde est en train d'imposer une citoyenneté ethnique, puis que pour les nationalistes, seuls les hindous et les citoyens légitimes seuls les hindous sont des citoyens légitimes. Évidemment, une des questions qui se pose, c'est que vont devenir ces personnes-là qui sont déchues de leur citoyenneté. Le gouvernement, pour l'instant, a autorisé la construction de centres de détention pour migrants illégaux dans différents lieux. Il y en a 6 que plusieurs qualifient de prison dans les prisons, parce que les immigrants dits illégaux sont mélangés avec les criminels. Puis les exclus du registre des citoyens pourront pas non plus être envoyés au Bangladesh parce qu'il y a pas d'accord d'extradition entre les deux pays. Donc, ils pourront pas rejoindre ni les centres de détention non plus comme le veulent les autorités parce que les infrastructures ont pas la capacité d'accueil. Donc, fort probablement que ce qui risque d'arriver, c'est que les exclus du registre vont sans doute rester en Assam, mais sans droit. Puis là, ben, ce que plusieurs craignent, en fait, c'est que l'exemple de l'Assam inspire des États voisins. Par exemple, il y a le Nagaland qui envisage de se lancer dans un processus similaire. Mais il y a aussi le premier ministre qui a promis de déployer à l'échelle nationale une opération de recensement semblable à celle réalisée dans l'Assam. Donc, c'est assez inquiétant.
Mais ils peuvent pas retourner au Bangladesh. Il y a un mur entre les deux pays.
En plus. Ben oui, c'est ça.
Fait que, tu sais, hein?
Ben, vous allez voir, d'ailleurs, je vais vous parler d'autres murs aussi ailleurs.
Merci Marie-Ève pour cette première partie. Oui, Simon?
Ben, juste me permettre, la frontière entre le Bangladesh et l'Inde, c'est la plus compliquée au monde. Il y a des territoires enclavés dans des territoires enclavés. Donc, bonne chance aux autorités indiennes pour déchouer, en tout cas, pour essayer de contrôler tout ce territoire-là.
Et à la bureaucratie indienne, ça doit être quelque chose. Hein?
Ça doit être très efficace.
Ça doit être pas
des recensements, des tribunaux spéciaux. Donc, merci pour ta première partie. Marie-Ève, tu nous reviens en deuxième demi-heure. Tu vas parler de quoi?
Ah, je vais vous parler de... Je vais faire un top des bourdes présidentielles.
Oh là là, les 3 millions et demi?
Ah, vous allez voir.
OK. Ça dépend quel président, hein?
Non, c'est ça. Il y en a deux, en tout cas.
Mesdames et messieurs, on va en région pour cette semaine. J'aurais pu vous parler des annonces réchauffées annoncées hier par mon préféré, Jeannette Barrette, sur les seuils d'immigration, le test des valeurs, mais on en avait parlé déjà il y a quelques semaines, c'était du réchauffé hier. Non, je vais vous parler de Jonquière. Petite information qui a pas passé beaucoup dans les médias nationaux, mais il y avait un référendum depuis 10 jours au cégep de Jonquière, à savoir si les étudiants et étudiantes allaient accepter d'augmenter leur cotisation de 2,50 $ par session pour parrainer à chaque année un réfugié qui viendrait étudier au cégep.
Ah ouais.
Et les résultats sont sortis aujourd'hui.
Et?
86% ont accepté, des 322 étudiants et étudiantes qui ont voté. Donc, petit coup de pouce pour les régions que souvent on qualifie de un peu rétrograde. Donc, c'est une belle initiative, qui est une initiative conjointe de la direction et de la sous-étudiante. Donc, les étudiants qui vont accepter de payer plus pour accueillir un camarade avec eux, un par année, là, finalement, on parle ici des droits de scolarité qui vont être payés en partie, d'hébergement, etc., etc., les dépenses, un parrainage privé comme ça existe là. C'est cute, on pourrait dire, c'est anecdotique, mais c'est quand même intéressant comme initiative. Le fait qu'il y ait eu un référendum, ben, ça a fait un débat aussi là-bas sur ces enjeux-là. Donc, c'est quand même sympathique comme initiative, hein, Marie-Ève, qu'est-ce que t'en penses?
Très, beaucoup, oui.
Toi qui as déjà passé par le cégep de Jonquière, hein?
Ben oui, j'ai passé 3 ans.
Donc, voilà, fait que ça se passe bien de ce côté-là. Fait qu'on espère que ça va être une initiative qui va être reprise aussi ailleurs au Québec.
Ça va s'appliquer à partir de l'année prochaine, quoi?
À partir de automne 2020.
Ouais.
Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Sinon, j'avais un autre bon petit coup de la semaine, mais il était un peu avec un gros goût amer. On avait reçu Richard-Alexandre Laniel de l'Association des juristes progressistes il y a quelques semaines pour parler, entre autres, de travailleurs guatémaltèques qui avaient gagné leur cause devant le tribunal de l'impôt par rapport à l'assurance chômage, qui avaient pu se faire reconnaître d'avoir droit parce qu'ils avaient payé des cotisations, même si il y avait un permis de travail unique avec un seul employeur et donc était un peu dépendant de ça. Et là, ben, les mêmes 11 travailleurs guatémaltèques ont gagné devant le tribunal administratif du travail la semaine passée par rapport à une histoire d'horreur complète. Ces gens-là avaient été exploités par une entreprise de placement et aussi par le propriétaire, pas le propriétaire, mais un conseiller en immigration. On avait parlé, je pense, même à l'émission. Il avait été arrêté en 2016. Finalement, avec le temps, ils ont aussi été déportés. C'est les mêmes qu'on parlait, donc, il y a quelques semaines. Mais ils gagnent. Ils n'arrêtent pas de gagner, mais ils sont plus ici.
Non, c'est ça. De là, le goût amer de la bonne
Exactement.
Nouvelle.
Donc, une histoire vraiment d'horreur. Là. On parle de 11 travailleurs qui ont été barouettés d'un employeur à l'autre. L'agence de placement leur a fait croire qu'ils pouvaient changer d'employeur quand il n'y avait pas le droit. On en a souvent parlé avec le programme des travailleurs étrangers temporaires. Et ils sont fait vraiment amener partout. Ils étaient mal logés, ils étaient mal payés. Ils devaient payer le conseiller en immigration des milliers de dollars qui étaient déduits de leur paye. T'sais, des insultes, des menaces à leur famille au Guatemala. Le gros bordel pendant jusqu'à 18 mois pour certains. Et finalement, ils ont été dédommagés par le tribunal. Donc, ils ont 5 000 chacun en dommages punitifs et de 20 à 30 000 pour dommages moraux chacun, dépendamment de la durée. Mais comme ils ne sont plus ici, je ne sais pas trop. Et en plus, la bonne nouvelle, le super employeur, les entreprises de placement, Les Progrès Incorporés. Hein, c'est un beau nom. Ça devrait inspirer Fred Dubé. il a fait faillite pendant le procès.
Ah, tu sais.
Ben oui, gardons ça. Ah. Fait que là, dans ces cas-là, je n'ai pas allé fouiller si le tribunal administratif du travail peut payer, en tout cas, peut demander au gouvernement de payer les compensations ou il peut poursuivre l'employeur qui a fait faillite. Mais vraiment, en plus, la défense et du conseiller en immigration, le conseiller d'immigration a avoué pendant le procès, le procès au niveau administratif, qu'il n'avait jamais fait de démarche, dans le fond, pour quoi que ce soit avec l'argent qui leur était donné pour qui était donné par les travailleurs.
Pour qu'ils puissent
avoir des papiers, qu'ils puissent travailler dans d'autres employeurs. Il a fait à croire qu'il pourrait faire des démarches pour leur faire changer d'employeur, etc. Donc, vraiment, tout leur document avait été saisi, évidemment. Donc, vraiment, une histoire d'horreur. Allez lire ça. C'est sorti dans plusieurs médias la semaine passée. Et c'est une victoire morale, une victoire technique qui va servir de précédent. Mais ces pauvres travailleurs-là qui sont plus ici. Je sais pas s'il va y avoir une campagne pour les aider, les faire revenir, je sais pas, ça n'a pas de sens. Ça fait deux fois qu'ils gagnent des causes parce qu'ils ont été vraiment exploités et sont à l'autre bout du monde, ben en tout cas en Amérique centrale. Donc voilà, fait que c'est une bonne nouvelle, mais
ouais, un peu trop tard.
Trop peu trop tard. Et c'est drôle que ces gens-là peuvent être accusés aux criminels. Tu sais, c'est quand même, ils ont mal logé, ils les nourrissaient quasiment pas, ils leur ont volé leurs papiers, ils les ont insultés, menacés. On parle de harcèlement psychologique, là, dans la cause. Mais il y a personne qui est accusé aux criminels. C'est juste administratif. C'est des petits dommages que peut-être ils seront pas payés parce qu'ils ont fait faillite. Puis le conseiller de l'immigration, j'imagine qu'il a perdu son permis, c'est pas précisé, mais quand même.
S'il y en avait un.
Et les travailleurs ont été déportés parce qu'ils ont été arrêtés en 2016 par l'agence des services frontaliers. Fait que parce qu'ils avaient changé d'emploi. Et tout. Fait que voilà pour ce bon moyen coup de la semaine. On revient dans quelques secondes avec Fred Dubé.
Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca et vous écoutez les Apatrides Anonymes. J'imagine que vous vous en êtes rendu compte, les élections fédérales ont eu lieu le 21 octobre dernier, à l'issue desquelles les libéraux de Justin Trudeau ont été reportés au pouvoir pour un deuxième mandat, minoritaire quand même cette fois. Et tout au long de la campagne, les Apatrides Anonymes ont analysé pour vous les plateformes des principaux partis en matière d'immigration et sur la question palestinienne, pour vous aider à faire un choix éclairé et peut-être vous donner d'autres raisons de vous abstenir ou d'annuler votre vote. Alors, nous ne pouvons pas passer à côté de l'occasion de vous présenter notre bilan de ces élections, mais comme aux Apatrides Anonymes, on n'a pas de club des ex, nous accueillons en studio la crème de la crème des analystes politiques de la gauche trash radicale, et j'ai nommé Fred Dubé.
Wow, belle présentation, c'est extraordinaire. Oui, petit bilan, que dire de tout ce cirque, comment commenter de façon pertinente un cirque? Alors, vaut mieux inviter un humoriste. Alors, bien fait. Moi, j'habite Centre-Sud et un des candidats était Steven Guilbeault. Alors, étant donné que l'environnement me tient à cœur, c'était assez évident comme choix. J'ai pas voté. Fuck you. Ben oui, en plus, quelques jours avant les élections, j'ai reçu un courriel du Pacte. Le Pacte m'invitait à faire un vote éclairé pour l'environnement.
Ah oui,
en
parce
votant...
que t'as signé ça, toi.
Oui. Ouais, oui, je suis encore... Je rêve. Oui. Je rêve des fois. Alors, il m'invitait à voter pour le parti qui a le plus de chances de vaincre le parti conservateur. Fait que, autrement dit, dans mon comté, le Pacte m'invitait à voter pour les libéraux. Fait que, t'as le Pacte, Barack Obama, la mafia, la famille des Marais, la presse, Bromfund, puis tous les requins dénoncés par les Paradise Papers ont tous mon avenir à cœur et m'invitent tous à voter libéral. Bon, avant, les gens mouraient pour le droit de vote. Aujourd'hui, c'est les meurtriers qui nous disent de voter. Alors, comment reconnaît-on un idiot pendant les élections? C'est celui qui dit, peu importe pour qui vous votez, l'important, c'est de voter. Hey, tu sais, quand on touche le fond du baril, cette phrase-là nous sert de pelle pour aller plus creux. Et moi, jamais, tu sais, fait que vaut mieux voter pour quelqu'un qui va nuire au bien commun, genre comme Maxime Bernier, que de ne pas voter. Explique-moi ça. Donc, le plus important dans le fait de voter, c'est le vote. C'est fabuleux. C'est comme de dire, peu importe ce que tu manges, l'important, c'est de manger. Chris, il était en train de licher une tige d'uranium d'un restaurant de Tchernobyl. Mais l'important, c'est de manger. Puis, il a de l'air en forme pour un vieillard. Il a 21 ans, tu sais. Hein, vous le savez comme moi, le but d'une campagne électorale n'est pas de promouvoir des idées politiques différentes, Marie-Ève, c'est de nous faire oublier sur quel charnier crasseux repose notre démocratie représentative. C'est simplement une pub de deux mois pour ça, normaliser la violence du processus de fabrication de ce système. Coca-Cola fait pareil, mais avec plus de classe et des paramilitaires. Tu sais, au moins, ils ont l'honnêteté de leur bord. La démocratie, encore on nous dit, c'est le pouvoir au peuple. Je suis un humoriste, je fais des blagues. Fait qu'à part dans un Costco, t'sais, dites-moi donc, t'sais, dans un Costco avec votre carte de crédit qui vous donne le pouvoir d'achat, à quel moment vous sentez que vous avez, que vous pouvez décider quoi que ce soit dans vos vies d'hostie de pauvre, hein, en votant une fois aux quatre ans pour un candidat qui sera pas élu ou élu mais sans réel pouvoir? À ta job, avec un boss qui te dit quoi faire? Dans ta ville, où des riches promoteurs immobiliers font ce qu'ils veulent avec notre milieu de vie? Dans ton propre corps, où la pollution créée par des corporations au-dessus des lois t'envahit quand tu respires, dans ta tête, où des empires médiatiques t'imposent leur information, au palais de justice, où l'argent fait la loi, dans la rue, hein, quand tu te fais taper dessus par la police parce que tu manifestes pour le bien commun, t'es où la démocratie dans tout ça? Ben, j'ai le droit de vote, fait qu'on vit en démocratie. Voter, c'est magique, hein, c'est Alain Choquette qui compte les bulletins de vote. Il y a des gens, là, je sais, ils vont peut-être pas à cette émission-là, mais quand je dis ça, on me dit, il y a des gens qui sont morts pour la démocratie, Fred. Je pense pas qu'ils sont morts pour cette démocratie-là, OK? Il y a aucun réformiste ni même révolutionnaire de mort en disant « Je veux vivre en monarchie constitutionnelle avec un scrutin majoritaire uninominal à un tour. Tous à la Bastille! » Non, non. Fait qu'à chaque fois que tu votes, hein, c'est comme si tu pissais sur leur tombe de ceux qui sont morts pour une véritable démocratie. Alors, bon... Pour première constatation, c'est mon j'ai placé les pions là.
C'est une bonne
là.
Mise en bouche pour eux,
une petite mise en bouche pour dire où je me situais. Alors première constatation post-électorale. J'ai réalisé que le Canada est un pays composé en très grosse majorité de gens millionnaires. Sinon, je vois pas pourquoi on vote pour les conservateurs et les libéraux depuis tout ce temps-là. Premier coup de cœur, Sylvie Fréchette. Vous avez vu la citation de Sylvie Fréchette? Sans le vouloir, Sylvie Fréchette, le soir de l'élection, OK, a fait la plus radicale et simple critique du concept de parti politique et de la démocratie représentative. La journaliste qui la questionnait sur ses propos controversés en lien avec l'avortement, Sylvie Fréchette répond, et je la cite, « Ce n'était pas ma déclaration sur l'avortement, c'est ce qu'on m'avait dit de dire, alors moi, j'ai répété ce qu'on m'avait dit de dire. » Bon, vive la démocratie. Vive la démocratie, hein. C'est ça la représentation. C'est pas le peuple vers le Parlement. C'est le Parlement qui nous impose leur vision au peuple. C'est juste qu'on se mêle quand on parle de démocratie représentative. On se mêle de qui représente quoi, dans le fond. Autre citation que j'ai adorée. Justin Trudeau, le soir des élections aussi. Justin Trudeau a dit, je vous donne ma parole. Mon équipe et moi serons là pour vous. Ce mot, ça sonne comme une menace, ça. Hein? Quand un libéral me dit qu'il est là pour moi, j'appelle la police. D'ailleurs, autre coup de cœur, pendant les élections, Justin Trudeau, forcé de porter un gilet pare-balles à la suite d'une menace de sécurité. Là, je me suis dit, Justin, hein, c'est une petite incursion dans la réalité. Hein, c'est parce que les gens pauvres, les Premières Nations et autres êtres humains se sentent menacés à tous les jours par tes projets de loi et le vote développement économique des libéraux. Puis même un gilet pare-balles, eux, ne les placent pas à l'abri. Bref. Alors là, je sais, vous voulez savoir qui a gagné les élections. Vous dites, ah, c'est les libéraux. Non, 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 non. Après deux mois de bullshit vermeil, voici, en grande primeur, les grands gagnants des élections. Le maintien au pouvoir du Parti libéral du Canada qui n'a pas fermé la porte à une entente pouvant permettre à SNC-Lavalin de se libérer des accusations criminelles qui pèsent sur elle semblait encourager les investisseurs. Au lendemain du scrutin, l'action de la firme d'ingénierie et de construction établie à Montréal prenait 12,84% ou 2,27 $ pour se négocier à 19,95 $. T'sais, en après-midi à la Bourse de Toronto. Fait que les vrais gagnants des élections, SNC-Lavalin, on les salue. Ils nous ont dit de... Et voilà. Alors, coup de cœur aussi, autre coup de cœur. Salut à SNC-Lavalin, merci pour votre victoire, bravo. Alors, autre coup de cœur aux médias, hein, les médias qui, les pseudo-commentateurs électoraux dans les médias mainstream passent deux mois à essayer de prévoir pour qui on va voter finalement. C'est fou, hein, ils font juste des... Faites pas, t'sais, c'est de la météo qu'ils font finalement, pas de la politique. Vous vous contentez de faire un peu de météo, fait que, et voilà. Fait que,
moi, je pense que c'est des messages subliminaux.
Ah, faut les écouter à l'envers. Ah, oui, comme un album des New Kids on the Block.
Genre.
Tout à fait. Et la veille, autre coup de cœur médiatique, la veille des élections fédérales, là, jugez-moi pas, là, mais bon, qui sont les analystes que tout le monde en parle, a invité à dresser leur bilan de la campagne? Qui?
Mathieu Bock-Côté.
Ben oui. Et?
Luc Lavoie.
Exact. Il y avait Chantal Hébert. Bon, Chantal Hébert, correct. Puis Luc Lavoie et Mathieu, tu sais, juste un des deux. Ça aurait été correct comme vision. Non, il faut les deux. Quand j'ai juste fait le call, il fuck off. Ils m'ont donné le goût de voter pour le parti de Maxime Bernier, juste pour que tout ça s'éteigne plus vite. Tu sais, privatisez-moi Radio-Canada, ça va rien changer. Puis, et voilà. Fait que j'ai manqué voter pour le parti de Maxime Bernier pour ça. En voyant ça, je dis, ben, que je voulais, Steve. Fuck you. Et certaines de mes analyses finissent par fuck you. Je pense que c'est ça. Mais pas tout. Je continue. Les médias et les journalistes. Et là, il y avait autre coup de cœur dans la campagne qui a retenu mon attention, c'est une des nouvelles. Je dis nouvelle, mais on nous l'a imposé. C'est une nouvelle fabriquée, en fait. Les médias et les journalistes qui ont fabriqué une nouvelle avec le fait, et ça c'est vrai, qu'une candidate de Maxime Bernier soit une ancienne playmate. Hein, et là, ça donnait le luxe à tous les médias de partager des photos d'elle en déshabillée et tout ça. Je dis, qu'est-ce que vous avez juste là d'enfants immatures, tu sais, qui rigolent en disant le mot vulve, ou de vieux mononcles cochons qui ramènent chaque discussion au cul. Tu sais, on pourrait qualifier l'idéal du journalisme ainsi, ok? Transmettre aux citoyens et citoyennes une synthèse judicieuse des événements pertinents afin que les citoyens puissent participer au débat public en toute connaissance de cause. Fait que quand je fais le bilan des outils intellectuels que vous m'avez donnés pendant la campagne, je me dis, allez donc jouer à tag dans le trafic ou louez-vous une chambre d'hôtel pour vous gonner dans le bain. Hein? Mais laissez nos têtes tranquilles. Finalement, au lendemain des élections, où rien n'a changé, on pouvait lire, hein, et là, il était excité, là, les chroniqueurs étaient excités, là, c'est écrit dans plusieurs médias, le Canada plus divisé et désuni que jamais. Hey, calmez-vous, les gribouilleurs des médias mainstream. Là. Vous êtes tellement d'extrême-centre qu'un éternuement devient une tornade. T'sais, la majorité des gens qui sont allés aux urnes ont voté pour des partis politiques sensiblement pareils. Capitalistes, pro-croissance, fédéralistes, parlementaires, hiérarchiques, voulant aider la classe moyenne, mais sans remettre en question le concept des classes, etc. T'sais, on n'est pas si différents. Je dis, l'Alberta n'aime pas vraiment le pétrole en soi. T'sais, le monde aime simplement la sécurité que leur procure leur job. Comme ici au Québec. Bref, la seule raison qui m'aurait poussé à voter, c'est si un parti aurait eu comme slogan « Pour l'environnement, abattons moins d'arbres, mais plus de riches. » Là, j'aurais été tenté.
C'est bon, ça.
J'aurais été tenté. Mais voilà. Et voilà, c'était le bilan.
Ben, merci, Fred. Écoute, c'est bien senti comme bilan.
C'est tranquille.
As-tu des shows qui s'en viennent?
Moi, tout le temps. Oui, ce soir, je suis au Théâtre Sainte-Catherine avec une soirée d'humour spéciale pour les Français. Fait et par les Français.
Oui. Un 31 octobre. Aïe, aïe.
Une fois par mois au Théâtre Sainte-Catherine. Et sinon, avec Christian Vanasse aussi, en tournant à gauche puis à droite.
On peut trouver les infos sur ton site web, j'imagine?
Oui. Là, on était au Lion d'Or lundi passé, moi, t'as dit. Ça. Vous nous avez raté. Puis sur mon site web, oui, sur mon site web.
Fred Dubé, c'est bien ça. Hein?
Oui.
On y va avec une pièce, merci. Hein?
Plaisir, merci à vous.
On y va avec une pièce de Adrian Sutherland, Politician Man.
All right, we're ready. Ready, girl. Sometimes I can't take no more.
for me lately, whoa. Hey, Mr. Politician Man, won't you break me up a piece of me?
C'est Simon en studio. Est-ce qu'on m'entend? Oui, je pense que oui. Alors, c'est la tune Political Man d'Adrienne Sutherland. Ça lui a été inspiré par la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, qui a probablement été réélue, Fred.
Tout à fait, dans la région de Toronto, là. Ouais, ouais.
Parfait. Elle tweetait en juillet dernier sa grande fierté que l'eau courante à Ottawa ait été reconnue comme la meilleure au monde. Alors que lui, M. Sutherland, dans sa communauté Cree d'Attawapiskat, l'eau est tellement contaminée qu'on a dû instaurer l'état d'urgence. Donc voilà pour la pièce Political Man d'Adrienne Sutherland.
Du bon mercure. Dans l'eau.
Dans l'eau, ben oui.
Tout à fait. Simon, tu vas nous parler de Haïti, parce qu'il se passe beaucoup de choses depuis plusieurs semaines. Hein?
Haïti, ben depuis plusieurs mois,
plusieurs
en fait,
années, finalement.
On
aussi.
Dirait que ça augmente en intensité de plus en plus. Donc, on peut rajouter Haïti à la liste que tu as nommée en introduction.
Tout à fait. Puis on n'en parle pas beaucoup dans les médias, donc vas-y.
Ouais, on en parle un peu plus depuis quelques jours, je te dirais. Là, il faut vraiment que ce soit gros pour que les grands médias
qu'il y ait
commencent.
Des morts, là.
Oui, ben, y en a,
y
effectivement.
En a. Ouais.
C'est ça. Donc, comme tu dis, on a un automne très chaud à l'échelle planétaire, au point que j'ai même lu certaines analyses qui disaient qu'on est peut-être à la naissance d'un embryon de révolution mondiale. On va se calmer, là. Il était un peu trop tôt pour dire ça, mais c'est vrai que ça brasse quand même beaucoup et partout. Donc, en plus des grèves pour le climat, c'est souvent en rapport avec la souveraineté, les droits démocratiques, comme on voit, par exemple, Catalogne, Hong Kong. Puis je suis conscient que je généralise, mais le plus souvent, ça touche aussi les questions du pouvoir d'achat, les conditions de vie économiques, les inégalités économiques, donc par ricochet, les inégalités sociales, forcément. Et ça finit pratiquement toujours par rejoindre les thèmes de la corruption, de la cupidité, des élites d'affaires, des élites politique. Et donc, dans la liste, on avait quoi? Bolivie, Algérie, Soudan, Éthiopie, Irak et Chili, évidemment.
Liban, Équateur, Indonésie, Égypte et compagnie.
Donc, ouais. Il y en a encore plus que ce que j'avais recensé. Donc, bientôt, partout près de chez vous. C'est ça. Donc, je vais consacrer ce segment-là à l'eau, ça brasse le plus, mais le plus près de chez nous, c'est-à-dire Haïti. Où les conditions de vie sont évidemment difficiles depuis toujours, avec une grande dépendance envers l'aide humanitaire. Population qui est prise avec des élites, mais complètement déconnectée de la réalité, on s'en rend compte de plus en plus. Comme dans les autres pays, il y a eu un élément déclencheur pour déclencher, ça le dit, cette colère populaire. Donc, dans le cas d'Haïti, c'est un scandale financier qui implique directement la classe politique, dont de nombreux députés, sénateurs, le président Jovenel Moïse, dont la population réclame la démission depuis des mois, mais qui continue de s'accrocher au pouvoir comme une sangsue. C'est souvent comme ça. Hein, ils ont été élus, mais ils ont l'air d'avoir un égo qui n'a pas d'allure, des fois.
Non, ils ont des intérêts aussi, oui.
Ben, ils ont des intérêts, mais il leur suffirait des fois de mettre un genre de remplaçant fantoche un peu, puis les intérêts seraient protégés, mais ils ont un égo personnel, moi, j'ai l'impression. Donc, au cœur de la crise actuelle, Petro-Caribé, la fameuse entente qui date du début des années 2000 entre le Venezuela d'Hugo Chavez à ce moment-là et d'autres pays de la région. Entente qui prévoit de vendre à rabais le pétrole vénézuélien aux partenaires de l'entente qui, eux, vont le revendre à profit à des multinationales. Profits qui sont ensuite partagés entre le Venezuela et les membres du partenariat. Avec cet argent-là, donc dans le cas d'Haïti, 4 milliards US qui ont été engrangés depuis 15 ans, on prévoyait financer des programmes, des infrastructures, eh bien, on a perdu la trace de pratiquement la totalité de ces 4 milliards et aucun projet significatif n'a été réalisé. L'argent s'est évaporé. Carrément. Donc, depuis que le scandale a été révélé, Haïti connaît parmi les plus grandes manifestations de son histoire. Évidemment, le président actuel, M. Moïse, n'est pas le seul responsable de ce scandale, mais il fait partie de ce genre de clique ultra corrompu. Il avait été élu en 2016 en tant que successeur et petit protégé du précédent président, M. Martelly. Donc, il sort pas de nulle part non plus, là. C'est comme un peu Justin ne sort plus. En tout cas, bref, je m'égare. L'explosion populaire a véritablement commencé début septembre, mais déjà à partir du mois de mai 2019, il y a un tribunal de haute instance qui avait accusé le président d'être au cœur d'un stratagème de détournement de fonds entre 2008 et 2018 par rapport avec l'argent de Petro-Caribé. C'est pas tout. Selon une enquête de l'ONU, un des proches du président dans l'exécutif a été impliqué dans un massacre commis dans la Saline, qui est un quartier de Port-au-Prince, il y a un an, ce qui soulève la possibilité, donc c'est un euphémisme, mais la possibilité de complicité entre les gangs et l'État. Cerise sur le gâteau, en juillet dernier, le président Moïse a nommé au poste de premier ministre Fritz William Michel, un de ses proches, soupçonné lui aussi de corruption. Le Sénat devait ratifier cette nomination-là en septembre, mais la séance a tellement été houleuse que ça ne s'est pas fait. Donc, c'est à partir de ce moment-là que la population s'est vraiment mise à sortir dans les rues de manière très massive, avec toujours en toile de fond le scandale de l'argent volé de Petro-Caribé. Donc, sa réponse aux manifestations du président Moïse, ben d'abord, refuser catégoriquement de démissionner, rejeter tout blâme, rejeter toute responsabilité, dire qu'il faut attendre que la justice suive son cours. On a très confiance en la justice haïtienne actuellement. Donc, et évidemment, réprimer les manifestations de façon assez sanglante à coups de gaz et de balles réelles. Et à chaque fois qu'il fait une déclaration publique, ça déchaîne encore plus la mobilisation populaire. En fait, il est devenu un peu le symbole de la corruption haïtienne. Et entre vous et moi, il l'a vraiment pas pour communiquer, pour apaiser les tensions et choisir les mots justes. À chaque fois qu'il parle, c'est une flambée de violence qui commence. Il y a donc des manifestations gigantesques, des grèves, des barricades partout, des pénuries, le prix des denrées qui n'arrête pas d'augmenter, le chômage qui est rendu à plus que le tiers de la population, il y a des coupures de courant. La rentrée des classes n'a pas pu avoir lieu cet automne dans la plupart des écoles, donc le pays est vraiment paralysé actuellement. Tout ça, c'est pas juste à Port-au-Prince, mais c'est à l'échelle d'Haïti, et à l'heure où on se parle, c'est pas du tout en mode essoufflement, c'est plutôt le contraire, l'intensité continue d'augmenter. Semaine après semaine, évidemment, il y a de la violence policière et militaire et d'autres milices pas toujours identifiables. Il y a eu des morts, mais en plus, les groupes criminalisés profitent du chaos actuel pour s'en donner à cœur joie à coups de recrutement, d'enlèvement, d'extorsion et j'en passe. Que fait Ottawa face à tout ça? Ben, le Canada continue de soutenir le régime de Jovenel Moïse, disant que... Il a été...
démocratiquement élu.
Et oui, voilà, deux bonnes réponses autour de moi. Faut dire aussi qu'il est backé par les États-Unis, ce régime-là. Donc, il y a actuellement une grande coalition en Haïti qui regroupe des syndicalistes, des gens d'affaires, des défenseurs des droits de la personne, des paysans. Vraiment une coalition très large qui, bien évidemment, réclame sa démission à M. Moïse. Et... qui demande qu'on installe un gouvernement temporaire qui lancerait ce qu'ils appellent une grande conférence souveraine qui serait chargée d'établir un plan de sortie de crise. Proposition ben, qui semble pas trouver d'écho dans la communauté internationale ni au Canada. La seule chose accordée actuellement par le Canada, c'est la mesure administrative temporaire qui s'appelle le sursis administratif. Au renvoi, c'est-à-dire qu'Haïti fait partie d'une très courte liste avec Syrie, Soudan du Sud, Yémen, de pays pour lesquels la plupart des expulsions sont temporairement suspendues, jusqu'à ce que l'Agence des services frontaliers décide que ça va mieux. Donc, si je me trompe pas, ce moratoire-là est en place depuis février dernier, alors que la contestation et les violences atteignaient déjà un point critique. C'est un peu ça avec Haïti. On met en place un moratoire, on l'enlève, on le remet. Par contre, pendant le moment où le moratoire est levé, on en profite pour expulser énormément, ce qui, à moyen-long terme, ne règle pas du tout la question des ressortissants ici à Montréal qui vivent un stress épouvantable à chaque fois, parce qu'ils savent que même si ils sont exclus pendant le moratoire d'être expulsés vers Ottawa, ils peuvent l'être dans quelques mois, une fois que l'agence de services frontaliers lève le moratoire. Donc, le chemin Roxham, ça va continuer parce qu'en janvier 2020, on va enlever ce qu'on appelle le Temporary Protected Status pour Haïti aux États-Unis. Décision qui pourrait éventuellement changer parce qu'on vient d'accorder une extension à ce statut-là pour le Salvador. C'est-tu pour le Salvador? Oui, c'est ça. Donc, on pourrait peut-être réévaluer la même chose pour Haïti. Donc, à voir qui sait en regard de la situation actuelle. Donc, voilà, ça complète les actualités haïtiennes.
Merci, Simon. On suit la situation en Haïti dans les prochaines semaines. Dans les prochains mois, on en reparlera au besoin. Il y a souvent des manifs d'appui aussi à la population haïtienne à Montréal. Donc, tenez-vous au courant. Quelques notes de musique et on revient avec Marie-Ève pour ses actualités internationales. Deuxième partie. Marie-Ève va nous parler de président et de leur connerie et
oui,
de leur niaiserie.
On va prendre son temps. J'ai sélectionné pour vous deux perles de bêtises présidentielles. On va commencer avec Emmanuel Macron. qui a prononcé un discours au ton martial lors de l'hommage national aux quatre agents là, de la préfecture de police de Paris qui avaient été assassinés à l'arme blanche par un collègue soi-disant radicalisé. Macron, évidemment, s'est fait grandiloquent. Hein, je cite, « Les institutions seules ne suffiront pas à venir à bout de l'hydre islamiste. C'est la nation tout entière qui doit s'unir, se mobiliser pour agir. »
C'est beau.
C'est, n'est-ce pas? Mais c'est la suite qui fait un peu sourciller. J'ouvre les guillemets encore. Une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Il poursuivait en appelant la nation tout entière à, j'ouvre les guillemets encore, savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République. Macron a eu beau se faire rassurant en précisant que par vigilance, en fait, il entend l'écoute attentive de l'autre et l'éveil raisonnable des consciences et non le soupçon qui corrode, on n'a quand même aucune difficulté à imaginer le genre de dérive auquel cette vigilance aux odeurs de délation peut aboutir. Décidément, la vieille France aux couleurs de chemise brune a la couine dure.
La couine, oui.
Ouais. Écoutez, je veux dire, le discours de Macron a même inquiété les milieux policiers. Jean-Pierre Colombi, qui est porte-parole de l'Union des policiers nationaux indépendants, s'interroge. Macron demande aux citoyens de se surveiller entre eux et donc de se substituer à la police. Après avoir monté la population contre sa police pendant une année de crise sociale de gilets jaunes, il va donc monter les citoyens les uns contre les autres. Ou encore, ce membre du collectif autonome des policiers de l'Île-de-France, Macron, ce qu'il veut en fait, c'est de la délation. Il demande aux citoyens de coopérer, d'accord, mais quand ce sont les citoyens qui demandent de l'aide dans des manifestations sociales, le gouvernement nous envoie, nous, les policiers, pour les matraquer. Quand même,
hein?
Autre problème, selon Jean-Pierre Colombi, je peux vous dire que les gens appellent pour tout et n'importe quoi. On est très bon en France pour faire de la délation et dénoncer son voisin.
Ça va très bien.
Eh bien, bien au fait de ce trait de caractère français, hein, la rédaction de Charlie Hebdo a décidé d'offrir quelques réponses à leurs compatriotes qui se demandent s'ils doivent appeler la police. Par exemple, mon voisin est arabe, mon voisin écoute toute la journée Enrico Matias, mon conjoint s'est laissé pousser la barbe, mon collègue de bureau a une clé USB plus grosse que la mienne, mon fils regarde toute la journée des vidéos de décapitation sur son smartphone, mon voisin de cabine d'avion a passé tout le voyage à lire Tintin au pays de l'or noir, ma fille veut partir faire de l'humanitaire en Syrie, mon chauffeur de bus refuse de prendre le volant après une conductrice et mon mari refuse de me serrer la main. Le conseil de Charlie Hebdo, si l'un de vos voisins répond à plus de 3 de ces critères, pas d'hésitation, dénoncez. Quand même pas pire, on aime bien Charlie Hebdo.
Ouais, ben écoute, 3 c'est quand même, je trouve que c'est 1, ça serait assez.
C'est ça.
Un des éléments, ça serait assez.
Ma deuxième Vas-y. Bourde, bon, évidemment, qui sur cette planète doute encore que Trump n'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte, pour utiliser une expression consacrée. S'il en fallait encore une preuve, lors d'un discours prononcé à Pittsburgh, le président a démontré ses grandes connaissances en géographie des États-Unis, en promettant pour lutter contre l'immigration clandestine en provenant du Mexique, de construire un mur dans le Colorado.
Autour du Colorado, hein?
Le problème, on le sait, là, c'est que l'État ne peut pas partager de frontières avec le Mexique, puisqu'il est situé au centre des États-Unis.
Dans les Rocheuses.
Entre l'Utah et le Kansas. Bon, à moins que la nouvelle stratégie de Trump soit de construire un mur autour de chaque État du pays, ce que la suite de son discours semble confirmer. Parce que Trump, alors qu'il aurait dû juste s'arrêter là, se la fermer, il a continué inexorablement à s'enfoncer, devenant de plus en plus confus. Et je cite... Et nous construirons un mur à la frontière du Nouveau-Mexique, un mur magnifique, un grand mur qui fonctionne vraiment, où vous ne pouvez passer ni par-dessus, ni par-en-dessous. Et nous construisons un mur au Texas. Et nous ne construisons pas de mur dans le Kansas, mais ils bénéficieront des murs que je viens de mentionner. OK, la vague de réactions sur les réseaux sociaux... qui oscillait entre la confusion et la moquerie. Donald Trump a évidemment publié un tweet dans lequel il répond que c'était une blague.
C'était oui, c'était une figure, hein.
C'était une blague.
Ouais, ouais.
Alors je terminerai sur ceci. Sir Trump, pardonnez-nous, pauvres ignares de la plèbe, qui ne savent pas reconnaître un humour si subtil et sophistiqué. Sans doute était-ce du cinquième degré.
Du sixième, Marie-Ève. Merci beaucoup, Marie-Ève, pour les actualités internationales. On revient avec l'agenda antiraciste dans quelques minutes. On écoute le groupe français Dub incorporé à travers les vagues. Find ourselves for the sake of one another. Beyond the bar. On n'a pas les mêmes chances et on n'a pas les mêmes limites. Qui choisit London quand on nous sélectionne? Où sont les frontières? On se réfugie, on s'invite. Tendre la main à travers les vagues. Face à la violence, on a tous atteint nos limites. Lorsqu'on abandonne et que la mer déborde, à la porte avec elle, notre humanité en dérive. Tendre la main à travers les vagues. Because the violence separate just to full control and play with fool. Give you all kind of reason to kill your friend, or even your brother, your family, them. They say that the pigeon would made us strong, but we prove them wrong. They say from so long, a time to unite, everybody stay strong. We no matter your race or your color, your religion, let's come together, everybody hand in hand. Make we march out strong in a this a revolution. We gonna fire, we say them separation. We standing strong in a this a
an island, displacement and the people in a violence. Some are still smile and yet them suffering in a silence. Work on the whites and then pass through a tight fence. No wonder why the eyes stand for unity and guidance. Dans le désert, je n'ai pas le choix. Face à moi et à la mer, je n'ai pas de quoi. Moi j'ai trouvé un bizarre, on voulait pas de moi. J'ai la couleur de la misère en ma licence et moi. Alors que rien à foutre, on va risquer la vie. J'ai pas besoin de vos conseils et de tous vos avis. La vie c'est vite, c'est vite, tout sera un préavis. S'il faut sauver tous les miens, fuck la mort, voilà ma vie.
Agenda des deux prochaines semaines. On commence avec un événement qui a lieu mercredi prochain, le 6 novembre. Ça se passe dans une église sur l'avenue des Canadiens de Montréal, Saint George Anglican Church. C'est le célèbre journaliste Robert Fisk qui est à Montréal pour une conférence qui s'appelle Trump and Chaos in the Middle East. Hein, on est dans les thématiques aujourd'hui. Organisée par Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient et SPHR Concordia, Solidarité pour les droits humains en Palestine, Concordia. Donc, il vient parler, ben, évidemment, de ce qui se passe dans le monde, surtout au Moyen-Orient. Robert Fisk, ça fait 40 ans qu'il est correspondant international. Il a couvert la guerre civile libanaise des années 70, la guerre Iran-Irak, les interventions occidentales en Afghanistan, etc., etc. Donc, une bonne expérience. Et il veut parler de Donald Trump qui apporte plus de chaos et d'agitation au Moyen-Orient, en particulier dans ses relations avec Israël et les Palestiniens. Ben, c'est non-relation avec les Palestiniens, finalement. Ouais. La conférence s'intitule « Tweet et accord du siècle, comment se joindre à la guerre sectaire du monde arabe sous le couvert de la paix. » Fait que c'est assez pointu, mais ça peut être intéressant. Donc, c'est en anglais, évidemment. Mais on a la traduction 6 novembre, donc, organisé par deux groupes de Montréal dans l'Ouest. Donc, ça vous tente. Projection insurgée de Somme Média, ça se passe le 7 novembre à la Shop dans Châteauguay-Maisonneuve. Le lancement de leur nouveau film, moyen-métrage, qu'on peut appeler Trouble numéro 22, qui s'appelle Franchir la ligne, résistance aux frontières dans la forteresse Amérique. C'est un événement bénéfice pour Solidarité sans frontières. Donc, ben, ça, le film, c'est à peu près en général une demi-heure, 45 minutes, leur film à cette gang-là. Ça va parler évidemment de Trump, hein, on est vraiment dans la thématique, qui veut régler les frontières brisées du pays et résoudre une bonne fois pour toutes la migration illégale. Mais ça parle aussi que lui et son équipe fabriquent délibérément le chaos, attisent les tensions raciales, suscitent la peur et font tourner la roue de l'industrie militaire en masse. Donc, on parle ici des demandeurs d'asile qui arrivent d'Amérique centrale, qui sont accueillis par des barbelés et des militaires, que les États-Unis continuent d'innover et de mettre au point de nouvelles méthodes pour profiter de la misère humaine. Et ça va parler surtout, finalement, de ceux qui profitent de cette situation aux États-Unis et ailleurs, ceux qui sont pris dans la ligne de mire et ceux qui se défendent et ceux qui les appuient. Donc, ça vous tente le 7 novembre à la Shop, projection insurgée sur la question des frontières aux États-Unis. Sinon, nos amis du PASC, Projet Accompagnement Solidarité Colombie, organisent une tournée qui s'appelle Justice énergétique avec Isabelle Zuleta, qui est leader de Rios Vivos en Colombie, qui est un organisme de défense des droits des populations et de l'environnement. Donc, une conférence le 6 novembre, ça va se passer à Concordia, qui s'appelle Le rôle du Québec, qui s'appelle Pour la défense du fleuve Coca en Colombie. Mais la thématique, c'est le rôle du Québec dans les conflits environnementaux, les massacres et les déplacements en Colombie. Donc, avec Madame Zuleta. Parce que, il y a la Caisse de dépôt et de placement, entre autres du Québec, qui est impliquée dans le financement d'un méga projet en Colombie qui est un barrage hydroélectrique qui s'appelle Hidro Tuongo, et qui est un désastre écologique et social, un des plus importants de l'histoire de la Colombie. Et la Caisse de dépôt a financé pour 300 millions, entre autres, de dollars canadiens, ce projet-là. Donc, c'est pas pour rien que cette madame-là vient parler, entre autres, pour sensibiliser les gens, parler des impacts de différents projets de développement, qui nuisent aux populations, à l'environnement en Amérique latine. Et donc, ça, c'est le 6 novembre. Et le 13 novembre, il y a une manif devant le siège de la Caisse de dépôt et placement du Québec, à la place Jean-Paul Riopel, organisée par le PASC et le CEDAL, Comité pour les droits humains en Amérique latine, qui vise la Caisse de dépôt pour qu'il se retire de ce projet-là, qui est en construction depuis 2011, qui est pas fini, qui a mené à des multiples violations des droits humains et à la pollution de la rivière, la fin de la pêche dans certaines sections. On parle, entre autres, que 12 municipalités autour du barrage ont été victimes de 62 massacres par les paramilitaires depuis 2011, qui ont fait entre 300 et 600 victimes, parce qu'on déplace des populations, on enlève des pêcheurs, on tape sur les contestataires, évidemment. Donc, un méga projet qui est financé, entre autres, par la Caisse de dépôt. Donc, conférence le 6 novembre et manif le 13 novembre à midi devant la Caisse de dépôt. Donc, allez voir sur le site du PASC pour plus d'informations. S'il me reste quelques secondes, OK. Il y a un événement, juste vous dire qu'il y a un colloque international démocratie, éducation et sciences où va le Brésil. Ça se passe les 14 et 15 novembre à l'Université de Montréal, organisé par le CEDAL, qui parle de la crise politique au Brésil et qui ont invité quelques figures clés de la résistance là-bas aussi qui vont être là. Donc, 14 et 15 novembre, pour information, observatoire-brésil.ca. Et le 16 novembre, après les deux jours du colloque, il y a un événement un endroit qui s'appelle la Maloca sur la rue Saint-Laurent où il y a lancement de livres, projection de films et musique brésilienne. Donc, ça vous tente aller faire un tour, aller pour ce colloque-là qui va parler vraiment de l'actuel gouvernement qui s'attaque aux libertés démocratiques et aux droits sociaux de la population. On en parlait la semaine passée, il y a deux semaines avec les Autochtones, entre autres. Ouais. Exactement. Donc, voilà pour le calendrier agenda antiraciste de cette semaine. C'est déjà la fin de cette édition des Apatrides Anonymes. Ça a passé super vite. Hein?
Oui, mais on avait du temps quand même avec Fred. On avait beaucoup d'actualités internationales.
Du très bon contenu. Ouais. Merci, Marie-Ève.
On s'auto-congratule, mais bon.
Merci, Simon.
Ben merci, mais il faudrait que les gens se calment un peu. On pourrait passer plus de musique, là, aussi.
Les gens se calment. Nous
et les mobilisations à travers la planète.
Oui, oui. Et toute l'actualité internationale, évidemment, et locale. Voilà. Donc, voilà. C'est Mathieu aussi qui était avec vous à l'animation aujourd'hui. Donc, pour nous écoutez cette émission ou les anciennes, allez sur le site de choc.ca. Nous avons une page d'émission avec toutes les émissions en balado. Notre site où se retrouvent aussi nos émissions, apatridesanonymes.info. Et aussi notre courriel apatridesanonymes@resist.ca pour nous rejoindre. On a une page Facebook aussi où on essaie de mettre, on va commencer à mettre de plus en plus d'informations et d'articles et de liens. Donc, voilà. Merci à notre super équipe. Et puis, on se reparle dans deux semaines à la mi-novembre. Donc, c'est les jeudis à 18h30 pour les Apatrides Anonymes. Bonne fin de soirée à tout le monde.
Bon Halloween.
Est-ce qu'on s'en va en musique?
Oui.
On s'en va en musique, Simon. Ben oui, avec musique locale en plus. BLD, Birds of Paradise, la pièce Messengers of Deception, des compilations de la compagnie 10 Kuchabata. bonne semaine.